Radio Kapi. Le journal, grâce à Hamzati Massandi à la présentation.
À la une de ce journal ce soir, au moins 8 morts et plusieurs habitations ainsi que des routes inondées. C'est en tout cas le bilan des dégâts causés par des pluies qui s'abattent depuis ce week-end sur la ville de Kinshasa. Nos reporters Babel Mpongo et Michel Kifinda nous font vivre ce calvaire des Kinois à l'ouverture de ce journal. Entre-temps, sur le plan sécuritaire, 15 personnes, dont un bébé, ont été tuées ce lundi par des miliciens de la Codeco au village Andissa, dans le territoire de Djougani-Touri. Les autorités coutumières de la région en appellent à la responsabilité du gouvernement. Notre invité est le directeur provincial de la Société nationale d'électricité SNEL ici à Kinshasa. Denis Tukuzu annonce le rétablissement cette nuit du courant électrique dans une partie de la capitale après une interruption volontaire préventive à la suite de l'inondation de son poste de haute tension de la Funa. Il évoque aussi les dispositions prises pour prévenir pareille situation prochainement. À toutes et à tous, bonsoir. Les pluies se sont succédées à Kinshasa depuis le week-end et cela entraîne des conséquences. Au moins 8 personnes sont mortes, plusieurs habitations ainsi que des routes sont inondées. Certaines érosions ont également progressé. Le point de la situation dans ce reportage de Babel Mpongo et Alphan Poissa.
Une femme et ses 7 enfants sont décédés pendant la pluie la nuit de samedi à dimanche au quartier Cuba, à la cité des anciens combattants en Galima. Un mur mitoyen a cédé sous la pression de l'eau. La chute d'un poteau électrique a tué un motard ce lundi vers Efobank à Bibois-Dansele. Aujourd'hui, plusieurs Kinois se sont absentés des services ou sont arrivés en retard, conséquence des inondations. C'est le cas à Massina, du quartier Papela, Matadi, Fumutsuka et Lubamba, car aussi vers Kampem à Mongafula, de nombreux quartiers de Ngirengiri vers la direction Khartoum, du quartier Louboudia. Limbao, des maisons le long de l'avenue Mamayemo en Galima, pour ne citer que cela. Témoignage.
Je ne peux plus vaguer normalement à mes occupations parce que les rues sont inondées, il y a de la boue partout, vraiment, c'est sale, aberrant.
Autre site inondé, la station-service de Kapela à Yolo, dans la commune de Kalamu. À la frontière entre Nsele et Maluku, le sable qui avait envahi le boulevard Lumumba vers Ngandamosolo est en train d'être évacué. Mais cela demande plus de moyens, assure les deux bourgmestres. Du côté des sites érosifs, certains ont progressé vers Boadi, Ngombakikusa, Manenga et au quartier Congo, nous dit le bourgmestre de Ngalima. Par contre, à Kojelo, à Mongafula, des habitants nous apprennent que cette dernière pluie, bien que forte, n'a pas causé de dégâts. La tête d'érosion qui menaçait a été stabilisée à l'aide des sacs de sable.
Merci Babel Mpongo Massimango pour toutes ces précisions. Autre conséquence de ces pluies, le tiers de la ville de Kinshasa est privé d'électricité depuis dimanche. La SNEL parle d'une interruption volontaire préventive à la suite de l'inondation de son poste de haute tension de la Funa, situé entre Koidro et l'usine Complast. Elle annonce, si tout va bien, une relance cette nuit pour certaines parties. Son directeur provincial ici à Kinshasa, Denis Tukuzu, qui l'annonce, parle aussi de l'importance de ce poste au micro de Babel Mpongo Massimango.
C'est notre poste haute tension qui alimente directement 418 cabines. Nous ne pouvions pas laisser les installations être endommagées et puis même les vies humaines. Voilà pourquoi la SNEL avait retiré à volonté ces postes de l'exploitation. Avec comme conséquence, 418 cabines sont mises hors service. C'est à peu près 2 millions de bénéficiaires directs de Limete, Barumbu, Kasavubu, Kiringiri, Bandalungwa, Bumbu, Gombe aussi, une partie de Kitambo. Donc pratiquement les un tiers de la ville est sans électricité. Quant à l'évolution, hier on a refoulé les eaux avec nos pompes de Puisa et vers la fin, hélas, la deuxième pluie est venue encore envahir. On attend la décrue afin de reprendre progressivement nos clients.
Nous les rassurons que l'équipe de SNEL a été mobilisée et comme la pluie cesse, aux alentours de 20h-21h, les premiers clients privés d'électricité pourraient déjà être alimentés.
Le directeur provincial de la SNEL, Denis Tukuzu, est l'invité de ce journal. Sachez aussi que ces pluies exposent de plus en plus le site de l'université de Kinshasa aux érosions et à l'enclavement à la suite de la détérioration rapide et avancée des routes. Les averses d'hier dimanche dans la nuit et de ce matin ont rendu l'avenue Kimwenza, un peu après son croisement avec bypass, quasi impraticable par les eaux de la rivière, déversée à cet endroit et remplie de cratères créés en pleine chaussée. Pendant ce temps, l'avenue de l'université, la seule route praticable, est aussi envahie par d'innombrables nids de poules entre les ronds-points Ngaba et Désespoir au niveau du Home Vatican, rendant ainsi la circulation difficile. N'est-ce pas, Michel Kifindangoy?
Outre les érosions qui menacent les sites de l'Unikin des disparitions, L'accessibilité à l'université de Kinshasa pose aussi de sérieux problèmes. Les pluies de ces derniers jours ont rendu l'avenue de Kimwenza impraticable au niveau du triangle des campus. Trois cratères ont déjà envahi la chaussée, créant ainsi des lacs artificiels. Témoignage.
Vraiment, avec de l'eau là, on ne sait pas comment traverser. Et parfois, quand on piétine même de l'eau là, il y a des infections qu'on attrape aux pieds. Il n'y a plus vraiment moyen, même pour les véhicules. Il y a trois lacs et au niveau du pont, il y a pas seulement de l'eau aussi, il y a des salités aussi. C'est pas facile. On ne sait pas qu'est-ce qu'on attend pour arranger cette route.
La seule route menant vers l'Unikin reste l'avenue de l'université, qui est aussi envahie par des dizaines de nids de poules, s'inquiètent ces jeunes politologues.
Nous demandons au gouvernement Touluka de prendre ça parmi les priorités pour que l'on trouve une solution idoine et urgente. Parce que si nous ne prenons pas garde, nous risquerons d'assister à l'enclavement de cette colline inspirée et inspirante.
La réhabilitation des routes menant vers l'Unikin s'avère tout aussi urgente que la construction des canalisations d'eau pour lutter contre les érosions qui envahissent le site.
Michel Kifindangoy. Nous apprenons qu'il y a également des dégâts énormes dus aux pluies diluviennes et à la montée des eaux dans la presqu'île d'Ubwari, secteur de Mutambala, dans les territoires de Fizi. Nous sommes au sud Kivu. Deux personnes sont mortes dans des eaux des pluies qui se sont abattues le week-end au village Rubana, dans la presqu'île d'Ubwari. Les victimes sont une femme enceinte et une fille de 15 ans. À Uvira, Fistongoma.
Les victimes ont été surprises dans leur sommeil par les eaux d'une rivière en crue. Leurs corps ont été retrouvés sans vie le matin du week-end sur une embouchure de cette rivière vers le lac Tanganyika. Selon le président du comité urbain de la jeunesse de Baraka, Patient Rafiki, ces eaux en provenance des montagnes d'Ubwari ont charrié tout sur leur passage. Maisons d'habitation, des poules et chèvres et des vastes champs de culture avant de se jeter dans le lac Tanganyika. Au cours d'une réunion avec le bureau de coordination des affaires humanitaires, les acteurs de la société civile de Baraka ont dénombré 35 000 personnes, soit 7 000 ménages affectés par la montée des eaux du lac Tanganyika. Les victimes sont les populations vivant le long du lac au quartier Kalunja, Mwemezi 1, 2, 3, Aibaz, Moma, Matata et Mushimbake. Partout ici, les habitants ont abandonné leurs maisons et vivent à la belle étoile. Le président territorial de la Croix-Rouge RDC Fizi, Onésifor Kabandula, signale par ailleurs que 300 autres personnes sans abri à cause des catastrophes naturelles ont été identifiées au village Kianda sur la route vers Sebele. Lors d'une mission d'évaluation clôturée dans cette région, les services d'urbanisme, du cadastre et les chefs de ces villages ont résolu de délocaliser ces populations de Kianda vers Sebele. D'Ouvira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Sécurité à présent. À Ituri, 15 personnes, dont 3 femmes et un bébé, pris en otage le week-end dernier par des miliciens de la CODECO, ont été brûlés vifs ce lundi à Andissa. C'est un village situé à 42 km de la commune rurale de Mongwalu, dans les territoires de Djougou. Ce qui porte à 33 morts le nombre des victimes de l'attaque depuis samedi de ces groupes armés dans cette localité et sa périphérie, précise des sources coutumières locales. Elle demande au gouvernement de restaurer l'autorité de l'État dans cette entité qui est toujours sous contrôle des miliciens. Entre-temps, des membres des différents groupes armés actifs dans cette province ont quitté Bounia dimanche à destination de Kinshasa en vue de répondre à l'invitation des autorités nationales. Selon des sources de sécurité, l'objectif de cette mission est de les impliquer dans la recherche d'une paix durable dans cette province, mais aussi de barrer la route à la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo AFC de Corneille Nanga, une initiative encouragée par des notables de l'Ituri. Radio Kapi Bounia, Marcel Kizabiamongo.
Au total, 17 membres du groupe armés FRPI, FPQ avec ses deux factions, IRDPC, Barkodeko, Zaïre et l'autodéfense MAPI, ont quitté Bounia dimanche matin à bord d'un avion de la compagnie Tracep affrété par Kinshasa à destination de Goma. Ils ont ensuite pris un autre vol pour Kinshasa, accompagné du commandant Segon chargé des opérations de la 32e région militaire. Selon des sources de sécurité, parmi ces chefs miliciens, 5 dont 2 membres de la FPQ, des autres de la FRPI et un de Zaïre sont arrivés dans la nuit de dimanche à Kinshasa à bord d'un avion commercial. C'est lundi matin, d'autres membres, notamment de l'IRDPC Barkodeko et de MAPI, étaient encore en attente à Goma. D'après les mêmes sources, l'objectif de cette mission est de sensibiliser les leaders de ces groupes armés à la paix et à la défense du territoire national contre la rébellion de l'Alliance du Fleuve Congo alliée au M23. Des notables de l'Ituri souhaitent que cette initiative de la hiérarchie de la RDC puisse mettre fin aux tueries de civils dans cette province qui regorge à ce jour environ 2 millions de déplacés internes. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la reprise des cours ce lundi 8 avril après les vacances des Pâques. Cependant, cette reprise n'est pas effective à l'école primaire Sengou. C'est dans le groupement Waloa Uroba, territoire de Walikale au Nord Kivu, tout simplement à cause de l'occupation de cet établissement par les groupes armés locales Uhuru, commandé par un certain général autoproclamé Machité. Une ONG locale de défense des droits de l'enfant alerte les autorités et demande à cette milice de relocaliser son camp afin de donner une chance aux écoliers de terminer l'année scolaire. À Goma, une correspondance de Denise Lukeso.
Selon GAP, une ONG de défense des droits de l'enfant basée à Walikale, ce groupe a installé son camp dans l'enceinte de cette école alors que les écoliers étaient en vacances des Pâques. Ce qui inquiète et fait craindre les responsables de cette ONG concernant le bon fonctionnement des activités scolaires en cette fin de l'année. Il invite cette milice à libérer la cour afin d'accorder une chance aux écoliers de terminer l'année scolaire.
Dans les mêmes collines de l'école primaire de l'Epensengu, il y a l'église 8e CEPAC, il y a le poste de santé de la 8e CEPAC. Les trois structures, ça se trouve ici. Même les parents, même les élèves, ils sont en train de s'inquiéter comment ils vont rentrer à l'école. Même les malades, ils commencent à s'inquiéter comment ils vont aller prendre les soins médicaux. Même les fidèles de l'église 8e CEPAC en Sengou, ils sont en train de se demander comment ils vont entrer à l'église. C'est pourquoi nous demandons que général Machite qu'il puisse aider la population et aider les enfants, vraiment qu'il libère la sainte de l'école pour que nos enfants qui puissent étudier convenablement.
D'après toujours cette ONG, le groupe armé Uhuru est devenu particulièrement actif avec l'avènement des Wazalendo dans deux territoires de Walikale, Waloa, Uroba et Bafuna. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Même situation dans la ville de Beni, toujours au Nord Kivu, où environ 1300 écoliers n'ont pas repris le chemin de l'école ce lundi dans le quartier Sayo, situé dans la partie sud de la ville. Décision prise par les autorités scolaires à cause de la dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie de la commune de Mulekera. Quel est le sort réservé à ces enfants qui risquent de perdre toute une année scolaire? Sadiq Aboubakar.
Ils sont précisément 1293 écoliers répartis dans 5 écoles. Ces élèves ont également raté les examens du deuxième trimestre. Une semaine avant le début de ces examens, le chef de la sous-division de l'EPST Ville de Beni dit avoir ordonné la suspension de toutes les activités scolaires dans cette partie de la ville jusqu'au rétablissement de la sécurité. Une décision motivée par la double attaque des rebelles des ADF les 23 et 24 mars dernier, attaque ayant causé la mort d'une quinzaine de civils. Quel sort sera donc réservé à ces enfants? Mathieu Roleng, chef de la sous-division de l'EPST Ville de Beni, affirme que si la situation ne s'améliore pas, ils seront obligés d'être orientés dans d'autres écoles de la ville. Mais du côté de l'armée, on se veut plutôt rassurant. Le capitaine Anthony Mualuchai, porte-parole des opérations militaires Sokola 1.
Nous avons détecté ce qui aidait l'ennemi à faire des incursions et nous sommes en train de mener des patrouilles parce que la menace a été déjà écartée. Donc aujourd'hui, je peux vous garantir que les élèves, que les enseignants du quartier Sayo peuvent, n'est-ce pas, reprendre les activités scolaires.
Entre-temps, ces élèves continuent d'enregistrer du retard dans leur programme scolaire. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Nous restons en Nord Kivu pour vous dire en plus bref qu'un calme précaire règne ce lundi sur différentes lignes de front dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. C'est après un week-end agité dans certaines zones. C'est notamment dans les environs de Bihambwe, territoire de Masisi, où des combats ont opposé dimanche les rebelles du M23 aux combattants des groupes armés locaux. Sake a également connu toute la matinée de samedi d'intenses bombardements de la part des rebelles du M23. Ces projectiles sont tombés dans les sites des déplacés de Lushagala, Chabindou et Lac Vert autour de la ville de Goma. En plus, d'autres est tombé près des bases militaires à Sake et Mubambiro. Par ailleurs, tout est calme autour de la zone des Rwindi, toujours occupée par les rebelles dans le territoire de Rutshuru. L'insécurité, c'est aussi dans la partie ouest du pays. Au moins 5 morts, bilan d'une nouvelle incursion de la milice Mobondo au village Engaou, dans le territoire de Kwamout, province du Maïndombe. Information livrée à la presse, c'est lundi par le chef coutumier de cette entité, Stani Libi, et confirmée par le député provincial Moïse Makani. Ces derniers indiquent que cette nouvelle attaque est survenue quelques heures après la signature de l'acte d'engagement par les deux communautés, Teke et Yaka, pour le retour de la paix et la cessation des atrocités dans la région.
Actualité internationale.
Le bilan du naufrage d'un bateau de pêche dimanche au large du Mozambique qui transportait 130 personnes est monté à 96 morts ont indiqué ce lundi les autorités locales. Plusieurs enfants figurent en nombre des victimes. Les sauveteurs ont retrouvé 5 survivants et continué leurs recherches, mais l'état de la mer rendait les opérations difficiles. La plupart des passagers tentaient de fuir la terre ferme en raison des fausses informations sur l'épidémie des choléra en cours qui ont sémé la panique, selon Jem Neto, secrétaire d'État de la province de Nampula.
L'invité.
La Société nationale d'électricité SNEL pourrait rétablir déjà cette nuit le courant électrique pour une partie de ses abonnés de Kinshasa qui en sont privés depuis dimanche. C'est ce qu'annonce son directeur provincial à Kinshasa, notre invité ce soir. Le tiers de la ville est dans le noir à la suite de l'inondation du poste haute tension de la SNEL Founa. Dans cet entretien avec Babel Mpongo Masimango, Denis Tukuzu évoque aussi des dispositions prises pour prévenir pareille situation à l'avenir. Suivez.
Bonjour monsieur le directeur.
Bonjour.
Depuis le week-end, la SNEL diffuse un communiqué annonçant que son poste de la Founa à Kinshasa est inondé et que cela a des conséquences sur la desserte en électricité sur la ville. Comment se présente la situation ce lundi? On sait que beaucoup de quartiers et de communes sont privés d'électricité depuis.
Effectivement, la pluie du dimanche qui s'est abattue des 0h à 5h du matin a fait en sorte que les eaux de la rivière Kalamu c'est envahir le poste de Founa. C'est notre poste haute tension qui est très stratégique, qui alimente directement 418 cabines. Nous ne pouvions pas laisser les installations être endommagées et puis même les vies humaines. Voilà pourquoi la SNEL avait retiré à volonté ce poste de l'exploitation. Avec comme conséquence, 418 cabines sont mises hors service. C'est à peu près 2 millions de bénéficiaires directs qui sont privés d'électricité. Quant à l'évolution, hier, on a refilé les eaux avec nos motopompes de Pisa et vers la fin, hélas, la deuxième pluie est venue encore envahir. On attend la décrue afin de reprendre progressivement nos clients.
Et quelles sont les parties de la ville qui sont privées d'électricité jusqu'à maintenant?
En tout cas, il y a toute une grande partie de Kinshasa alimentée par les cabines 20 kV. Donc, Limete, Barumbu, Kasavubu, Kiringiri, Bandalungwa, Bumbu, Gombe aussi, une partie de Kitambo. Mm-hmm. Donc, pratiquement, les un tiers de la ville est sans électricité.
Et si on peut estimer, quand est-ce que vous pensez que ce sera possible de rétablir l'électricité hein, pour ces abonnés SNEL?
Tout dépend de comment les eaux se retirent. L'équipe est déjà prédisposée, mais je crois que d'ici 2 heures, si la pluie s'arrêtait et que les eaux se retiraient, donc nous allons travailler et au plus tard, aux alentours de 19h, 20h, nous allons commencer déjà à reprendre nos clients. Parce que hier, vraiment, on avait presque fini et qu'il y a eu des employés.
Justement, étant donné que nous sommes pendant la période de pluie et que cette situation-là, la Métasat avait déjà annoncé des fortes précipitations pendant cette période, le mois d'avril, également une partie du mois de mai. Qu'est-ce que, au niveau de la SNEL, vous prenez comme précaution pour qu'on ne retombe pas dans pareille situation? Parce que nous sommes dans la saison de pluie et des pluies abondantes, il y en aura.
Oui, au niveau de la SNEL, madame, si vous suivez très bien l'histoire de ce qui est en train d'être fait maintenant, la première inondation du poste, c'était au mois de décembre, 23 décembre. La gestion pour la remise en exploitation avait pris au moins 3 semaines parce qu'on avait eu même des pertes des équipements électromécaniques. Mais tandis que la deuxième inondation, nous n'avons pris que 2 jours. C'est-à-dire quoi? De 3 semaines à 2 jours, c'est que sur le plan prise de disposition du côté SNEL, il y a une nette amélioration. Mais le vrai problème est que la cause véritable est que quand vous voyez ces postes lorsqu'il a été construit, il n'y avait aucune maison aux alentours. Mais les gens se sont attribués des parcelles. Ils ont construit anarchiquement, même en dessous des lignes haute tension, et le poste est enclavé, complètement enclavé. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle la rivière Kalamu, avec le phénomène d'utilisation de bouteilles en plastique et le non-curage régulier de Kalamu fait en sorte que ces eaux vagabondes-là puissent envahir des installations. À court terme, il y a déjà des projets de financement pour voir comment monter ces installations à la hauteur. Mais immédiatement, nous observons la météo comme vous et nous prenons des dispositions à mettre les installations hors état de nuire au cas où une pluie s'avançait afin de limiter les dégâts. Et nous avons pratiquement aussi installé quelques motopompes d'exor pour refouler à temps réel toutes les eaux qui envahissent le poste. Malgré cela, quand les quantités sont très, très grandes, les motopompes se révèlent impuissantes.
Donc, aux abonnés SNEL de ces parties de ces communes concernées là, quel message vous leur transmettez à la fin?
Nous les rassurons que l'équipe de SNEL a été immobilisée vers et comme la pluie cesse. Et aux alentours de 20h-21h, les premiers clients privés d'électricité pourront déjà être alimentés.
Merci, monsieur le directeur.
C'est moi qui vous remercie, madame Babel.
Le directeur provincial de la SNEL à Kinshasa, Denis Tukuzu, était interrogé par Babel Mpongo Masimango. Par ici, nous mettons un terme à ce journal vespéral de ce lundi sur Radio Kapi. Il a été coordonné par Gilles Mister Bilanda, sous la supervision éditoriale d'Alain Rugmouchins. Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa a assuré la mise en onde. Merci d'avoir écouté ce journal que vous pouvez retrouver sur www.radiokapi.net. Jeff Opela, à vous l'antenne.